Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et après avoir évoqué les questions climatiques, on s'intéresse à présent à une dimension de plus en plus cruciale dans la gestion de patrimoine, c'est le risque de dépendance, un sujet qui est, c'est vrai, et on le comprend, parfois redouté, souvent tabou, mais qui demande et mérite une vraie anticipation patrimoniale. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Eugénie Daugé. Bonjour Marie-Eugénie.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes. Vous êtes la fondatrice de Mamita et Bon Papa, une entreprise qui accompagne les familles dans ce moment charnière de la vie et donc de la vie patrimoniale, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Déjà peut-être juste une question pour poser finalement Mamita et Bon Papa. Pourquoi avoir choisi de créer cette entreprise ?
Écoutez, Mamita, Bon Papa est avant tout le résultat d'une expérience personnelle en tant qu'aidante familiale, d'abord pour mon père, pour mon beau-père, et pour de la famille proche. Et je dirais qu'en fait, cette expérience personnelle m'a donné vraiment l'intuition de développer tout un réseau d'aidants, de confiance et fiable, au service de personnes qui vieillissent à leur domicile.
Parce que le constat, c'était de se dire, en fait, ça n'existe pas, c'est ça ?
Le constat, c'est de se dire, oui, ça existe, il y a beaucoup de sociétés d'aide à la personne sur le marché, mais j'ai quand même identifié vraiment deux points fondamentaux sur les aides d'aujourd'hui. D'abord, c'est vraiment de comprendre tous les enjeux liés aux générations des personnes qui vieillissent, qui arrivent à des âges de dépendance, et aussi de comprendre la typologie de services dont ces personnes vieillissent ont vraiment besoin.
C'est-à-dire, à qui s'adresse votre offre ? Ce sont les personnes âgées qui doivent se dire, entre guillemets, aujourd'hui, j'ai besoin qu'on vienne m'aider ? Ou est-ce que ça s'adresse finalement aux enfants, voire aux petits-enfants, qui se disent, là, on va avoir besoin de quelqu'un pour aider ?
Bien sûr. Nos interlocuteurs privilégiés sont d'abord les enfants.
D'accord.
Les parents qui vieillissent. Et ensuite, on a aussi des personnes âgées qui se rendent compte qu'ils ont des besoins d'aide quotidiennes. Ce qu'on peut quand même noter, ce qui est peut-être quand même important, c'est qu'aujourd'hui, on voit que la population de personnes âgées arrive de façon très massive dans un âge de dépendance et sont de plus en plus nombreux.
Oui.
Aujourd'hui, les plus de 80 ans représentent 4,1 millions de personnes et dans 20 ans, ils seront 10 millions.
Et je le disais en introduction, Marie-Eugénie, cette question de la dépendance, du vieillissement de la population, il est évident et il doit rentrer dans cette question de gestion de patrimoine, de réflexion patrimoniale. Et ce qui pouvait paraître peut-être annexe il y a encore peu de temps, aujourd'hui on doit se dire c'est impératif, on ne peut pas parler de gestion de patrimoine, se dire on gère son patrimoine et se dire la dépendance, on verra plus tard. On peut pas, c'est ça.
Vous avez raison. En effet, aujourd'hui, les personnes qui vieillissent de plus en plus longtemps. Et donc, la durée de vieillissement se prolonge, ce qui signifie effectivement que les aides liées au vieillissement vont donc durer plus longtemps. À titre d'information, il y a aujourd'hui 42 000 centenaires en France. Dans 5 ans, il y en aura 12 000 de plus. Je ne vous parle pas de 2050. Et la moitié de ces centenaires vivent chez elles. Du coup, l'enjeu patrimonial, évidemment, est primordial, parce que ces aides vont progressivement augmenter, vont être de plus en plus coûteuses, et donc cela impacte fortement le budget familial. Également du fait de certaines maladies, type maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, etc. Les aides sont très vite renforcées et étendues.
Bon, je vais mettre les pieds dans le plat et être extrêmement vulgaire. Ça coûte combien ? Enfin, c'est quoi le coût un peu caché ou mal anticipé de cette période particulière où l'on parle de dépendance ?
Oui,
un ordre de grandeur, enfin voilà, on ne vous demande
bien
pas
sûr.
Un devis.
Oui, 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 bien sûr. Effectivement, la prise de conscience du coût d'aide à domicile lors de la dépendance, elle est rarement anticipée, que ce soit par les parents que par les enfants. Vous avez raison. Et puis dans la conscience collective, tout le monde se dit que nos parents vont vieillir en bonne santé. Tant qu'on n'est pas confronté directement à cette problématique de perte d'autonomie, on ne réalise pas du tout ce que cela va coûter. Vous avez raison, Cédric. Un ordre de grandeur très concret. Aujourd'hui, par exemple, pas plus tard que ce matin, une famille nous a appelés, avait besoin d'une aide de 4 heures par jour, 7 jours sur 7 pour ses parents. Ça représente un coût mensuel de 4 000 euros par mois.
Et oui.
Voilà, déductible à 50%, mais plafonné très vite.
Du coup, Et là, j'ai envie de dire que les besoins que vous prenez en exemple sont quelque part limité. On comprend bien que si c'est plus que quelques heures par jour et qu'il y a du jour et de la nuit, etc., c'est encore plus impressionnant. Du coup, si on ne prépare pas ça à temps, pour les parents, pour les enfants, pour le patrimoine de la famille, ça a des conséquences énormes.
Bien sûr. Je dirais que la première conséquence, en fait, c'est de ne pas avoir la liberté de rester chez soi. Et aujourd'hui, 90% des personnes âgées veulent vieillir chez elles, et c'est vraiment leur grand souhait. Donc, ça veut dire un départ en maison de retraite ou en maison de colocation senior ou d'être accueilli
avec
chez des enfants.
Avec des coûts associés aussi, hein, c'est pas gratuit non plus. Hein.
Bien sûr, tout à fait. L'autre obligation, c'est devoir vendre trop rapidement des biens immobiliers. Et qui dit vente rapide, dit souvent, on vend à la casse, quoi.
Ouais.
Donc, il peut exister d'autres solutions de financement, des viagers, des locations d'appartements, etc. Mais pareil, ça s'anticipe un peu. Ensuite, on peut utiliser les épargnes, des comptes assurance-vie, des livrets pour couvrir une partie des coûts.
Mmh. Concrètement, comment est-ce que vous intervenez, vous, chez Mamita et Bon Papa? Quel type de service vous proposez?
Alors, Mamita, Mon Papa, c'est ce qu'on appelle une société d'aide à la personne mandataire, agréée par l'État. Nous, on a développé donc un réseau d'aidants et d'intervenants. Aujourd'hui, nous avons 3 types de profils, 60 auxiliaires de vie, 20 dames de compagnie, 20 secrétaires privés, aide administrative. Mamita, Mon Papa preste aujourd'hui 30 000 heures par an et 1200 nuits par an. Notre mode de fonctionnement est vraiment un mode de fonctionnement sur mesure, très intuitu, personnalisé. On rencontre systématiquement chaque personne âgée, idéalement avec leurs enfants, dès qu'ils nous appellent pour qualifier leurs besoins et connaître l'environnement dans lequel ils vivent. Ensuite, nous établissons un devis. Si le devis est validé, nous venons leur présenter un ou des profils qui nous semblent les plus adaptés pour les accompagner et répondre à leurs besoins. Et parallèlement, on fait un suivi très régulier, au moins une fois par mois, de chacun de nos clients qu'on accompagne. Et on suit également de très près toutes nos intervenantes, qu'on a au moins une fois par semaine.
D'accord.
Voilà.
Alors, vous nous dites, on voit notamment les clients, les enfants. Mais j'ai envie de dire, dans le monde dans lequel gravitent les familles, il y a d'autres acteurs, j'ai envie de dire. Alors, on peut penser d'abord, premier rang, à tout ce qui est médical, donc les médecins, voilà. Mais si on est là, et c'est le but aussi de Radio Patrimoine et de Cœur de Patrimoine, à la frontière de la gestion de patrimoine, il y a peut-être un notaire, il y a peut-être un avocat, il y a peut-être un conseiller patrimonial. Comment est-ce que vous regardez un peu ça avec eux? Vous êtes aussi en relation avec ces acteurs-là?
Alors, on l'est directement ou indirectement. Donc d'abord, comme je vous le disais, effectivement, notre interlocuteur privilégié reste vraiment les enfants.
Mmh.
Si la personne âgée, en effet, n'a pas d'enfants à proximité, on peut interagir, j'ai envie de dire, avec le référent familial ou le médecin, par exemple. Néanmoins, sur des maladies neurodégénératives, des maladies de fin de vie, là, on intervient beaucoup, donc avec le SIAD, l'HAD, c'est-à-dire l'hospitalisation à domicile, les soins palliatifs, les médecins. Et enfin, pour répondre plus précisément à votre question, sur la prestation vraiment d'aide administrative, là, nos profils interagissent régulièrement avec les notaires, les gérants de patrimoine, dès que c'est nécessaire, voire même des avocats si besoin, pour pouvoir traiter l'administratif du client et avec lui.
On a parlé tout à l'heure d'un exemple, pour estimer une idée de coût, etc. Est-ce que vous pouvez nous décrire une situation patrimoniale dans laquelle finalement ça a permis d'éviter soit un éclatement familial, soit un déséquilibre patrimonial, entre guillemets, à quoi sert, à part s'occuper des gens, et ça c'est déjà essentiel, mais à quoi sert Mamita et Bon Papa?
D'accord. Alors, sur la prestation d'aide administrative, qui est vraiment une prestation qu'on est en train de développer considérablement, avec des acteurs qui sont un peu nos rapporteurs d'affaires, des gérants de patrimoine, des banquiers privés, qui en fait voient que cette génération vieillit et donc ont besoin d'aide auprès de certains de leurs clients pour les aider à gérer leur administratif, parce qu'ils en sont angoissés. Quand on vieillit, on est angoissé des papiers, lassé de les faire. Et donc, très souvent, ils font appel à nous, à nos services. Et dans ces cas-là, nos profils d'aide administrative, qui sont des profils assez, assez instruits, des bac plus 4, bac plus 5, avec une expérience souvent solide en entreprise, plus particulièrement dans le domaine juridique, travaillent régulièrement avec le gérant de patrimoine, le banquier privé, le notaire, leur avocat, si besoin, pour voilà, traiter un certain nombre de papiers.
Alors, on est au mois de juin, quasiment juillet maintenant, Marie-Eugénie. C'est vrai qu'on va se retrouver, pour beaucoup, en famille, l'été, etc. Que ce sont des moments parfois peut-être plus privilégiés pour évoquer. Il y a du calme, on est avec plusieurs générations réunies, où on peut peut-être parler d'argent, de dépendance, de budget, etc. À quel moment il faut, quand on est enfant, par exemple, ou petit enfant, commencer à parler de dépendance avec la génération du dessus? C'est pas facile, hein, de dire, dis donc, va peut-être falloir, tu sucres les fraises. Enfin, voilà, non, voilà, c'est difficile. À quel moment, vraiment, il faut se dire, là, maintenant, on a franchi le pas de l'ordinaire?
Je pense que c'est une question qui est compliquée, qui est délicate. Qui effectivement n'est pas si simple que ça d'aborder et d'en parler, de parler du vieillissement en famille, parce que parler du vieillissement, c'est aussi parler un peu de notre échéance, oui, et donc de la mort. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas attendre d'être dépendant pour en parler. Je pense qu'il faut que les enfants, avec les parents, prévoient des scénarios de vieillissement, se projettent, prévoient des projections, fassent des propositions. Papa, maman, si un jour tu te retrouves dans telle situation,
qu'est-ce qu'on fait?
Comment tu le vois? Comment tu vois les choses? Pour que vraiment progressivement les choses se mettent en place et on commence à y réfléchir tranquillement. Mais tout comme on imagine effectivement sa mort, on peut imaginer ces scénarios de vieillissement, ces projections, pour mettre en place cette réflexion et pour permettre surtout de poser des choix et des choix libres.
Oui, et on le rappelle, je le dis à chaque fois qu'on parle, qu'un notaire ou autre vient nous expliquer comment on fait un testament. Faire son testament ne fait pas mourir. Parler de sa dépendance ne va pas nous rendre dépendants plus vite, hein, on est d'accord?
Absolument.
Comment est-ce qu'on l'intègre dans sa stratégie patrimoniale? Il y a des assurances, il y a des réflexes à adopter. Comment est-ce que vous nous guideriez?
Je pense que la première chose, c'est quand même d'établir un bilan patrimonial. Voilà. En se rapprochant de son banquier ou alors de son conseiller en gestion de patrimoine, quand même, pour déterminer précisément le montant dont je vais devoir compléter, en fait, ma retraite pour couvrir tous les frais liés à une éventuelle dépendance et une aide à domicile. Voilà, et puis de continuer d'exprimer avec ses proches tout ce qu'il souhaite faire ce qu'on souhaite faire de sa dépendance.
Est-ce qu'il y a des erreurs types que vous, enfin voilà, quand vous débarquez dans une famille et qu'on vous raconte tout et vous dites là c'est sûr je vais trouver ça, ils l'auront pas fait, un peu comme tout le monde et c'est dommage. Est-ce qu'il y a comme ça des erreurs types qu'il faut que des enfants qui nous écoutent se disent ok bah ça, on se le dit, il faudra pas que ça nous arrive.
Alors je pense que c'est difficile de juger des erreurs. Je pense que chacun essaye de faire vraiment au mieux de ses capacités, fait comme il peut. Néanmoins, ce que je peux simplement dire et ce que je ressens, c'est parfois le décalage qu'il peut y avoir entre ce que peuvent percevoir des enfants comme aide pour leurs parents et ce que les parents sont prêts à accepter ou ont la volonté d'accepter. Voilà, il m'est arrivé une ou deux fois d'avoir des enfants au téléphone qui me disent « voilà, papa, maman, il faut tout de suite leur mettre en place 4 heures par jour, c'est très important ». Et puis en fait, quand on va voir les parents, on se rend compte que non, les parents en fait vont encore relativement bien. 2 heures, c'est largement suffisant, voire même 2 heures tous les 2 jours pour qu'ils l'acceptent bien. Ça. La première aide de mise en place est très importante, elle est primordiale. Il faut vraiment y aller avec beaucoup de doigté et de délicatesse,
Marie-Eugénie Daugé, je demande toujours aux intervenants, presque quel que soit leur domaine d'intervention, de donner le petit argument clé, le petit tips pour parler en bon français, pour résumer le message, pour passer une idée. Enfin voilà, vous, ce serait quoi finalement votre message clé?
Je pense à Victor Hugo. Victor Hugo qui disait « Je ne vieillis pas, au contraire ». Mon corps décline, mais mes pensées croient.
Ah, Bon, alors, on aura cité Victor Hugo dans l'émission, ce sera pas mal. Pour terminer juste, il y a encore des projets, vous développez, vous...
Alors oui, notre grand projet sur lequel nous travaillons vraiment activement actuellement et qu'on va continuer de travailler, c'est vraiment de développer notre prestation d'aide administrative qui répond souvent à un besoin qui n'est pas exprimé explicitement, mais qui libère et qui apaise vraiment beaucoup les personnes âgées. Et on a la chance voilà, d'avoir beaucoup de sociétés de gestion de patrimoine et de banquiers privés qui nous font confiance et qui font appel à nos services.
Eh bien alors, on vous souhaite le meilleur là-dessus aussi. Mamita et bon papa, inscrits vraiment dans la gestion de patrimoine ce matin grâce à Marie-Eugénie Dauger. Merci Marie-Eugénie d'être passée.
Merci Cédric.
Dans Cœur de patrimoine, et on continue bien évidemment à vous accompagner. On va parcourir, tiens, un baromètre dans un instant, le baromètre de l'épargne en France et en région. Ce sera dans un instant.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.